Les cours du Collège de France.
Bon, bah, je vais continuer la discussion sur le quotient régulier et on donne quelques applications sur l'étude des fibrations de Hitchin généralisées. Je rappelle un peu le quotient régulier comme on l'a étudié. Donc, on a K, c'est toujours un compte de base, je suppose souvent caractéristique 0 pour simplifier la vie, et parfois c'est vraiment nécessaire pour l'instant. Donc, M, c'est un K-schéma affine et défini. Donc, G, c'est un K-groupe réductif. Agissant sur M. D'abord, on a ce quotient au sein des invariants. Donc, M sur G, ce sera le spectre de l'anneau des fonctions invariants sur M. Donc, il y a aussi un K-schéma affine de Tiffini. Par le théorème de Hindberg, Mumford et compagnie. Je répète pour le point de base, c'est que ce quotient régulier classifie les orbites fermées de M. Et les orbites fermées ne forment pas un sous-schéma localement fermé de M. Donc ça n'hérite pas vraiment des propriétés géométriques de M. Donc, on se demande si on peut former le quotient de l'ensemble des orbites ouvertes. Donc ça, c'est M reg, des orbites réguliers. Donc c'est des M dans M. Donc la dimension de Gx sera maximale. Donc il faut, en caractéristique 0, caractéristique P, il faut faire un peu plus d'attention. Je vais passer le silence là-dessus. En caractéristique 0, c'est juste la dimension maximale. Alors, le quotient régulier, c'est essentiellement une structure algébrique sur l'ensemble des orbites ouvertes. Donc pour le faire, il faut faire une rigidification, assez connue en théorie des champs algébriques. On prend I règle. Donc I, c'est le schéma en haut. Des stabilisateurs. Donc au-dessus de M, en chaque point M, on prend le sous-groupe stabilisateur du point. Quand on y règle, c'est la restriction de I à M règle. Donc là, on se trouve avec un schéma en groupe de fibres ayant tous les mêmes dimensions. Mais il y a des cas désagréables, mais en faisant ça, ce n'est pas plat. Notamment quand l'action du groupe sur lui-même, la conjugaison, lorsque le groupe n'est pas simplement connexe. Donc souvent, pour pallier à ce défaut, on prend I'. Donc ça, c'est un sous-schéma. En groupe ouvert qui est plat au-dessus de M reg de Y. Donc souvent il faut enlever quelques composants connexes dans les fibres, avec ça on voit la construction de rigidification. Qui je pense que c'était bien connu depuis longtemps, mais il y avait le...
Donc il y a Nati d'Abramovic. Et quelqu'un, et puis il y a Vistoli aussi. J'ai un peu oublié de la personne au milieu, qui consiste en fait à enlever ce la soupe normale. De gommer ce I prime. Donc on a ce quotient de
M quotient I prime G. Donc c'est de supprimer I prime dans les stabilisateurs.
J'ai expliqué la semaine dernière comment on le fait. On fait une double descente assez standard pour construire. On fait deux fois la descente pour construire ce quotient. Donc ça
a toujours un champ de Lie-Mumford. Donc les
stabilisateurs qui restent, c'est le défaut entre I' et I reg. Donc ça, c'est des composants qu'on laisse qui subsistent. Donc souvent, on va supposer lorsque I' est égal à I reg, donc ça veut dire que lorsque I reg lui-même est plat, donc là, on va noter simplement M reg sur G est un espace algébrique. Donc on va tout se placer dans ce cas-là. Donc là c'est algébrique, mais comme l'exemple du quotient Jacques Ralis que j'ai discuté la semaine dernière montre que c'est un aspect algébrique, mais qui n'est pas un schéma. C'est un espace algébrique, mais n'est pas un schéma. Donc c'est un truc bizarre. C'est la restriction à la veille d'un schéma qui est non séparé. Donc se trouver n'est pas un schéma. Donc voilà. Donc on a ce diagramme.
On a M. Là-dedans, on a M reg. Donc là, on a ce quotient régulier. Donc,
je mets dans cette hypothèse que Y est plat. Donc je prends I' et I. Donc là, c'est vraiment juste l'ensemble des orbites régulières sur laquelle on peut mettre une structure algébrique, un espace algébrique. Et là, on a le quotient M mod G. Donc bien sûr qu'on a un morphisme comme ça. Et donc là, pour que cette théorie ait une quelconque utilité, ce qu'il faut démontrer, c'est le théorème suivant. C'est pas très difficile, hein. C'est le résultat de Morizet et moi, que ce morphisme-là est un... Donc là, pour l'instant, on va supposer que la caractéristique de K est de caractéristique 0. Alors ce morphisme est... est universellement fermé. Qui me vérifie la partie d'existence du critère évaluatif. Bien entendu, qu'il ne vérifie pas la partie d'unicité, comme dans beaucoup des cas, comme le cas typique. L'arçon hyperbolique, donc comme là.
Donc il y a l'arçon hyperbolique. Donc GM agit sur A2, donc T, X, Y, T, X, T moins 1, Y.
Donc là, le quotient au sens des invariants, c'est juste la droite affine. Et le quotient régulier, c'est la droite affine avec recollée avec elle-même en dehors de 0. Donc ce morphisme-là est typiquement fermé. Donc, si vous vous placez ici, vous pouvez relever en deux façons différentes. Donc ça, c'est un phénomène général. Donc, c'est plus de la preuve. Donc, pour l'instant, l'hypothèse caractéristique 0 est essentielle. Mais ça devait marcher en caractéristique P, mais je ne sais pas démontrer. Alors, comment on fait? Donc on a ce rappelons le critère évaluatif. Donc R est un anneau de variation disquette. Une variation disquette. Donc K, c'est le corps de fraction de R. Donc on a ce diagramme. Donc je suppose que ça ne coûte rien de supposer que le corps résiduel de M est le corps de base, petit k. On peut changer le corps de base de toute façon. Donc on a ce diagramme. Donc on a un morphisme du trait vers le quotient invariant. Et on suppose que le point générique s'envoie dans le quotient régulier. Donc on a une orbite régulière sur le fibre générique. Donc il s'agit de montrer l'existence d'une flèche en pointillé qui fait que le diagramme commute. Donc en fait, le plus évident, c'est on va considérer le produit fibré entre le spec R avec ça. Comment faire Il y a des... Enfin, pour faire un argument rigoureux, il faut faire un peu attention des choses quand on va prendre le morphisme de spec de M, de spec R M sur G, nous donne un morphisme d'algèbre dans R. Et donc, on va remplacer d'abord R par R, donc on note R prime, et l'image de ça. Et donc, ça, c'est par définition, R prime est un. Et de un cas algèbre de Tiffini. Donc, on va d'abord faire on va faire le produit fibré de spec. De spec R, R prime, fois M sur G et M. Donc on réduit ainsi, donc on, le point K va être le point générique de ça. Donc là, c'est une KNG de Tiffini. C'est un schéma affine de Tiffini. Avec action de G. Donc on va se réduire à cette situation-là, M'. Et donc maintenant aspect K'. Donc après une extension finie, on peut on peut supposer que spec K s'envoie à M'. Donc le Donc l'idée, c'est ici, maintenant, donc on va prendre l'adhérence de... comment dire Donc là, il faut faire une récurrence. La caténarité. Pour se réduire vraiment à une situation où on a une courbe. Donc là, si R' n'est pas laissé en dimension 1, mais en fait, caténarité, on peut se réduire à une dimension 1. Donc, dans quel cas, on se retrouve à la situation suivante. On a M.
Et au-dessus de R.
Et R, ce sera
spec K de M dans G.
Et donc là, la première remarque est que après la réduction, la fibre spéciale
est non vide.
Donc, si la fibre spéciale est vide, on peut rien faire. Alors, la fibre spéciale non vide est parce que les orbites fermées
correspondent objectivement au point de R.
Donc,
sur la fibre spéciale, il y a au moins l'orbite fermée.
C'est parce que les orbites fermées se correspondent objectivement au point. Et ensuite, on va prendre la clôture.
La clôture de Darinsky. La clôture de Darinsky de l'orbite
de ce point X, ce point M. Donc là, on retrouvera la situation où M sur spec R est plat. Parce qu'on est sur un trait et on prend la couture Darinsky, donc il n'y a pas de torsion, donc c'est automatiquement plat. Et la fibre générique a une orbite ouverte. Et la fibre spéciale est non vide. Ça, c'est vraiment important parce que la fibre spéciale est vide, on ne peut rien faire. Non, la fibre est non vide parce qu'il y a l'orbite fermée. Donc, on utilise l'orbite fermée pour démontrer l'existence de l'orbite ouverte, en quelque sorte. Donc, là, la conclusion, ça, c'est les hypothèses. Et la conclusion, c'est que l'orbite fermée, la fibre spéciale, contient une orbite ouverte. Et là, de mon hypothèse que j'ai réductif est vraiment essentiel dans l'action du groupe additif, ou l'action lors du groupe unipotent sur le plan. Vous voyez bien que ça ne marche pas, c'est vraiment l'hypothèse réductive qui est importante. Donc là, ici, il y a la notion de...
Quand je rappelle, il y a une notion quelconque de G sur M.
Donc il y a une notion qui est due à l'origine à Arnon, qui est de la modalité.
Et là, c'est le générique.
C'est juste on mesure c'est la codimension
de l'orbite. Donc c'est d, g, d, m, c'est la codimension de l'orbite régulière.
Comment?
Voici
une orbite ouverte, elle est régulière. Oui. Et donc M est irréductible. Alors le résultat de l'expérience est dû à Weinberg et Popov, c'est que cette modalité, enfin le. La notion de modalité de Arnon, c'est la famille maximale d'orbites de même dimension. Mais si on s'applique aux orbites régulières, c'est des modalités génériques. Ce qui est plus facile à calculer, c'est le degré transcendance des invariants dans les fonctions rationnelles. Donc c'est une orbite ouverte, donc il y a la seule fonction néomorphe à une variance à une constante. Et voilà. Donc dans cette situation, donc on a M sur R, aspect R, un schéma plat, un FIP. Un fil spécial non vide. Eh bien, on peut définir cette notion de corps de fonction relativement à M en faisant la limite inductive de M moins Z de O. On prend surtout les schémas Z qui est sur spec R, les sous-schémas fermés, qui est plat. Et en faisant ça, on obtient un R à nos plats, donc de rang infini bien sûr, mais donc la fibre spéciale. C'est le corps de fonction de la fibre spéciale et la fibre générique. Et le corps de fonction de la fibre générique. Et comme on est en caractéristique 0, donc
en caractéristique 0, le foncteur V dans VG est exact. En fait, VG, c'est un foncteur direct de V. Donc, du coup, F.
Donc, on a F, G est plat. Et donc, ça, comme la fibre générique et la modalité générique de la fibre générique est nulle, il en est de même. De la fibre spéciale. Donc voilà la démonstration. je m'excuse un peu quand c'est un peu embrouillé, je ne suis pas sûr que je mette des arguments dans le bon ordre, mais donc, donc l'argument est quand même relativement clair. Là, il y a le premier point, c'est qu'il faut que la spéciale soit donc vide. Donc ça, on l'a parce que dans le cas de, si on affine, on a l'orbite fermée. Donc on a une orbite fermée, et ensuite on prend le... On se réduit à la situation que la base est une courbe. La base est une courbe. Et dans ce cas-là, on prend simplement la couture Zariski de la fibre générique. Donc là, on a un morphisme plat. Et ensuite, on se réduit à cette situation où un morphisme plat, la fibre spéciale non vide, un arsme de groupe réductif. Donc, il faut les montrer si sur la fibre générique, il y a une orbite ouverte. La fibre spéciale doit avoir une orbite ouverte. Donc là, on utilise ce critère de modalité générique qui dit que l'existence de l'orbite ouverte est équivalente à ce que les invariants dans le corps de fonction est trivial. Il y a une seule fonction invariante. Et comme c'est plat, donc ça passe à la fibre générique de la fibre spéciale. C'est ça l'argument. Donc voilà. Donc seul intérêt de cet énoncé est qu'il est extrêmement général, ça marche dans tous les cas. Sinon, ce n'est pas extrêmement difficile. Donc, maintenant, je vais profiter pour discuter comment on l'utilise pour étudier les fibres de Hitchin très générales. Et ensuite, je vais donner des exemples.
Et c'est surjectif ou...
Oui, c'est surjectif.
Parce que comme d'ailleurs, aussi, il n'y avait que les universellement fermés.
Donc, si j'utilise l'hypothèse, il existe une orbite régulière semi-simple. Donc l'ouvert principal est... Oui, donc surjectif, oui. Pardon. Oui. Pas toujours.
Dans le cas des
doubles machins, dans les cas, dans le cas des formules et traces, il y a toujours des sections pour certaines raisons, mais dans les cas méchants comme le commutant, il n'y a pas de section. Mais dans le cas, justement, dans le cas méchant, quelque sorte, le cas des schémas commutants, avec deux matrices qui commutent, alors le quotient invariant, c'est le schéma de Chow, de cycle dimension 0, qui est singulier. Alors là, c'est une région de singularité. Tu ne peux pas faire une section de région de singularité. Donc, il y a des sections, justement, dans les cas où le morphisme de M rect sur M mode G est lisse. Donc là, il y a des sections. Ouais. Donc, on a toujours cette situation où M est un cas schéma affine qui est défini et j'ai un cas groupe réductif agissant sur M. Et j'aurais dû mettre cette hypothèse toujours parce que sinon toute l'étude n'a aucun intérêt. C'est l'hypothèse de Luna Richardson. Et qu'il existe une orbite fermée et régulière. Donc dans tel cas, il y a un ouvert M principal qui donc des réunions des orbites fermées est régulière et là les stabilisateurs forment la composante neutre peut-être. Forme une place de conjugaison.
De sous-groupe réductif G.
Donc on a cette situation M principale, donc c'est l'ouvert le plus joli. Ensuite il y a M régulier et ensuite M. Donc dans le cas usuel, c'est les matrices régulières semi-simples, les matrices régulières et dans les matrices. Donc tout ça c'est invariant. Donc on a les. On a ces
M qui s'en va sur M sur G, on a M rec qui s'en va sur M. Donc je suppose l'hypothèse, donc l'autre hypothèse c'est que irrégulier est plat.
Donc là, c'est largement par commodité parce que je ne veux pas mettre les I' qui
m'embête un peu.
Donc là, c'est un morphisme fermé, universellement fermé, et qui est un isomorphisme au-dessus du lieu principal. Voilà. Et donc là, il y a l'action de G. Et le dernier ingrédient dont j'ai besoin pour construire les fibres de Hitchin, c'est une action d'un autre groupe, une sorte de centre qui agit sur M et commutant à l'action de G. Donc ça, souvent, c'est un tore. Je suppose que c'est un tore, pour simplifier. Donc dans le cas de l'action adjoint à l'ingénieur de Lie, c'est le scalaire. Mais je vais vous discuter aussi dans le cas de fibres Hitchin multiplicatives aujourd'hui, donc, où il y a un tore beaucoup plus gros. Donc on a
la fibration de Hitchin généralisée. Donc on fixe une courbe. Une courbe projective lisse X sur K, projectif lisse. Donc fixer aussi un ZM torseur N sur X.
Donc ici un fibre en droite dans le cas de l'arc adjointe. Donc là on a la fibre Hitchin, le champ M, qui sera simplement le champ des morphismes de X vers M divisé par G divisé par ce centre. Et ensuite, on peine que s'envoie sur le classifiant du centre, on retrouve ce torse fixe. Et donc, ça s'envoie, donc, le morphisme de Hitchin, ici, c'est de s'envoie à A, pendant X dans M. Mode G, au sens invariant, mais au quotient par le centre, au sens champêtre. Donc on se demande que ça soit aussi au-dessus du même torse L. Donc c'est exactement la fibre Hitchin originelle. ZM, oui, bien sûr. Ben non. Où M c'est l'algèbre de Lie, G c'est le groupe, et ZM c'est le scalaire. Et donc, en suivant ce diagramme, on a à l'intérieur des M une partie ouverte, mrec. On remplace simplement m par mrec. Divisé par g fois zm. Et là, on remplace ce quotient par le quotient régulier. On a b. X vers M le quotient régulier aussi divisé par ZM donc le ici parce qu'on tord tout par ZM donc localement on ne le voit pas du tout ce torseur mais globalement on devait le mettre pour avoir des problèmes du non vide. Et là, on a morphisme de B vers A. Et donc, donc, par construction, donc comme dans le cas de la finitude usuelle, ce morphisme de partie régulière est beaucoup plus facile à comprendre que la première, bien sûr, parce que ce morphisme-là est une gemme. C'est simplement une gemme qui est liée par le centralisateur régulier. Qui est J sur donc MREC sur J. Donc en quelque sorte, on l'a même construit exprès pour servir de support pour le centrateur régulier. Et qui peut être défini comme le lien qui lie cette gemme. Donc J est un schéma commutatif. Si, c'est un groupe défini à un automorphisme intérieur près. Mais c'est un vrai groupe, un signe commutatif. Donc, si pour tout B dans B, on peut noter J de B, c'est l'image réciproque de J. Donc là, c'est un schéma en groupe lisse. Supposons qu'on est dans ce cas. Donc il y a des cas intéressants, on n'est pas commutatif, mais supposons qu'on est commutatif. Donc sur X, c'est un schéma en groupe lisse. Commutatif et comme votre P de B, c'est le torseur de ce J de B. Donc du coup, on a le morphisme de M break. Donc notons ça H, notons ça G H break. Donc pour tout B dans B, H rec moins 1 de B est un torseur sous P de B. Donc ce torseur est trivial si on arrive à trivialiser cette gerbe, qui arrive souvent. En tout cas, je pense ici, un point que je ne vais pas aborder, c'est de comment calculer la classe de cette gerbe. Je pense que c'est un point important de comprendre cette gerbe. Qui logiquement devait être relié à des. Devait être relié au facteur de transfert de l'enchaîne stat dans beaucoup de cas. Donc ce morphisme-là est formellement un torseur sous un schéma en groupe. Donc, et souvent, dans ce cas, c'est un schéma abélien. Et ce morphisme-là, on comprend aussi, enfin, on comprend, donc si on note A avec le cœur, c'est les morphismes de A de X dans M, mode G, mode ZM, DZM. Donc peut-être que l'image, dont l'image intersecte avec la partie principale, donc une régulation semi-simple, alors on a le morphisme de B est subjectif. Donc à cause de l'énoncé précédent sur l'existence du valuatif, le critère valuatif. Sur le critère valuatif. Vous avez un morphisme de X vers ce quotient et qui rentre dans la partie principale presque partout. Donc dans le point qui reste, on utilise le critère valuatif pour le relever. Donc on a... Donc voilà. Donc donc ça c'est les arguments que j'ai utilisés dans le cas adjoint. Donc j'aimerais bien cette partie se généralise très bien. Donc je vais raconter quelques exemples. Mais il y a un point qui se gère beaucoup moins bien. Qui était en quelque sorte qui était découvert par dans l'étude du cas multiplicatif par Jingen Chi, et qu'en fait dans le cas adjoint où B est égal à A, où le quotient régulier et le quotient principal est la même chose. Dans ce cas-là, les fibres de la partie régulière est dense dans M fibre par fibre. Et là, ça ne marche plus du tout en général. Donc ça marche dans le cas multiplicatif. Il y a des composantes irréductibles qui ne sont pas du tout régulières. Mais il y a quand même quelque chose qui marche, c'est assez étonnant. Mais donc, en tout cas, je vais raconter cela la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on va continuer ces exercices dans quelques exemples. Donc là, le cas le plus joli, c'est le cas de fibration de Hitchin.
La partie régulière et dense.
C'est partie cœur, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui.
Pour UNL. Donc, quelque sorte, c'est le cas le plus joli que je comprends dans les fibres de Hitchin pour les groupes réels. Donc, je pense que l'étude était dans la thèse de. Commencer par la thèse de Chaposnik, de Laura Chaposnik. Et qui a été ensuite repris par Oscar, Katia Prada et Neon Pieto, et ensuite qui a été repris par Mojun Hamester et Moïse en suivant cette approche. En tout cas, au moins maintenant, ce que fait Chaposnik est complètement devenu relativement transparent dans. Mais cette approche. Donc elle se voit. Donc ici G, c'est G un len fois G un len. Donc on me représente ça comme une matrice, une matrice en bloc D, le bloc N fois N. Donc il agit sur M,
Donc là, c'est l'espace vectorien de
0, BC. Aussi des matrices en bloc n fois n.
Donc ça agit par conjugaison.
Donc j'ai H agit sur x, y.
C'est
j'ai x, h moins 1 et h, y, g moins 1.
Donc c'est l'action. Donc là, on voit bien sûr les invariants évidents, c'est qu'on envoie ça sur le x, y. Et aussi y, x si on veut, mais le pôle non caractéristique.
Le pôle non caractéristique, y, x. Caractéristique, x, y, x.
Donc c'est ça le quotient.
Donc,
on voit dans ce cas-là, donc ici par les, par exemple, là on peut
générer Richardson. C'est beaucoup plus général, mais si on s'applique à ce cas-là, on trouvera que ici de M mod mod G va être l'espace affine des points non caractéristiques.
Luna Richardson, c'est un moyen vraiment très efficace pour calculer ce quotient invariant dans les cas, surtout dans les cas où M est normal, irréductible. Et là, si on fait des calculs, on trouvera que M mod mod G est de copie de
Copie de AN identifié sur l'ouvert où AN est non nul. AN c'est déterminant de x, y.
Donc il y a deux copies et puis il y a ce diviseur qui est donné par le déterminant de x, y. Donc c'est juste deux copies. Et donc dans ce tableau, on a ce B et ce A. Donc le A est on a ce B, on a ce A qui est le morphisme vers ceci. Donc ça c'est l'espace vectoriel habituel. Et là, on a ce morphisme B. Donc, on a une flèche vers.
Disons, ça c'est X vers M mod mod G.
Donc, ça c'est AN. Et puis, on veut relever dans M mod mod G. Donc supposons que si, l'image n'est pas entièrement contenue dans cette droite, alors c'est une isomorphisme partout, mais au-dessus de ce lieu, on a deux choix. Donc ça, c'est un morphisme quasi fini, mais en fait, je crois que c'est fini. De fibres, de cardinalité, de cardinal 2 à la puissance de D, où D est le nom de. C'est le réduit c'est le nombre de points de diviseur, de déterminant de XY. Donc, c'est le réduit parce qu'on compte le. Mais donc, génériquement.
B sur A, c'est un morphisme fini, étal, de degré 2 à la puissance. À la puissance n fois
N fois degré de N. Donc voilà, c'est le... Et ensuite, donc, la fibre, donc si supposons que la cause spectrale est lisse, alors la fibre de Hitchin, dans ce cas-là, ce sera la réunion disjointe de deux puissances quelque chose de la jacobienne, de la petite picarde, de la cause spectrale. Voilà. Et donc, ce nombre-là est expliqué par ce défaut entre le quotient régulier et le quotient. Il y a le N, il y a toujours le fibre en droite N. Le fibre canonique, si tu veux.
Non, mais le GM,
enfin
GM pour ça.
Non, oui, bon, il y a le GM qui agit ici. C'est la somme scalaire ici. Voilà, donc même dans ce cas-là, là, je pense que les gens n'ont pas fait le calcul, mais je pense que donc, bien sûr, sur les FIP les plus régulières, c'est des variétés béliennes, c'est des tout, mais dans les FIP singulières, il y aura des composantes irréductibles qui sont différentes des composantes régulières ici. Donc, c'est l'exemple que je vais montrer maintenant. Donc il y a un autre cas qui est vraiment remarquable, mais qui est beaucoup plus étudié en quelque sorte. Un peu d'ouvrir de ce point de vue. C'est le cas de la fibration de Hitchin multiplicative. Donc ça, c'est une situation qui était, je pense, d'abord étudiée par Markman et Hurtubise. Et ensuite, il y a les travaux de Franken et moi-même, où on a introduit dans ce langage-là. Et ensuite, ça a été poursuivi, étudié en beaucoup plus de détails et beaucoup plus de difficultés par Boutier, suivi de Chi. Et maintenant, c'est la troisième thèse, c'est de Wang. Je pense que maintenant, il est plus ou moins complet. On a une compréhension aussi bien que possible. Donc, d'expliquer la situation. Donc le problème local, c'est le suivant. Donc on a un groupe réductif et sur un corps local, donc euclidien, donc sur un O. Donc disons que c'est une série formelle. Et on va prendre gamma dans G de F, un élément régulier semi-simple. Et on rappelle aussi qu'on a des combinaisons de Cartan. Qui est décompose GF en une réunion de double classe. Où lambda parcourt l'ensemble des co-caractères dominants. Et ce qu'on aimerait bien comprendre, c'est l'orbite, la classe de conjugaison de haut gamma, intersectée avec l'une de ces doubles classes. Donc on veut comprendre cela géométriquement. Donc on voit ça comme une analogie multiplicative.
Ça c'est le, en quelque sorte c'est la fibre de Sprinkler affine. Multiplicative.
Donc au lieu de la caractéristique des points entiers de l'algèbre de Lie, on prend cette double classe. Ce qui c'est là la difficulté de l'affaire. Donc bien sûr, c'est très naturel de point de vue premier des traces, parce que c'est les interorbitales qu'on veut comprendre. Donc,
et plus souvent, on va prendre aussi les lambda prime, avec lambda prime plus petit que lambda dans l'ordre habituel dans ceci.
Voilà, donc c'est ça. Donc le
plus de Sprinkler, c'est des G. Donc GF, G de O, tel que G moins 1, gamma G, soit dans la réunion, lambda prime plus petit que lambda de G, OT, lambda prime, G de O.
Donc ça, c'est littéralement c'est vraiment la fibre de Sprinkler multiplicative qu'on va étudier. Donc on va. Donc il y a donc ça c'est le donc ça c'est le cette fibre de Sprinkler M, il dépend du nombre de gamma et il dépend aussi de lambda et il y a bien sûr un ouvert régulier, c'est de M Oh, pardon, c'est réunion. Comment on écrit qu'on fait la réunion maintenant Merci. C'est vraiment l'Alzheimer avancé, là, j'arrive plus à écrire la réunion. Bon, voilà les. Je dis tout de suite un peu le. Donc là, comme dans le cas de. Comme dans le cas des. Dans le cas de cas additif, donc c'est. Ces fibres de Sprinkler, il peut avoir un nombre infini de composantes, mais ces composantes sont complètement gommées par l'action du centralisateur. Donc il y a l'action de. On peut définir cette action P gamma, donc l'analogue local de ce P gamma, qui agit sur M gamma. Et dans le cas additif, cette action induit une action simplement transitive sur, sur les composantes irréductibles. Donc ici, ce n'est plus le cas. Donc. Donc ici, pi 0 de P de gamma n'agit pas transitivement. Donc là, c'est vraiment le résultat de chi. N'agit pas transitivement sur les composantes irréductibles de ça. Mais l'ensemble et on a aussi l'ouvert régulier où on me demande que le que G moins A gamma G soit régulier en fibre génique et spéciale peut-être que G moins A gamma. Enfin, là je n'ai pas défini, il faut que je définisse. Enfin, il y a une partie régulière qui ressemble à cette situation, mais pi 0 de P gamma, cet ensemble est fini. Mais il est très gros. Donc il y a des composantes, il y a ici des composantes qui ne sont pas régulières. Mais qui est le plus étonnant, c'est en fait que c'est quand même les composantes ont quand même la même dimension. Donc c'est ça, c'est, je trouve, c'est le fait le plus étonnant de cette histoire. Donc les parties régulières ne contrôlent pas tout, c'est juste un tout petit nombre de composants. Il y a d'autres composants, il y a beaucoup plus. Mais néanmoins, les autres ont la même dimension que la première régulière. Donc c'est ça les...
Pour que ça ne soit pas trivial, il faut une condition
sur G ? Non, n'importe quel G. Oui, oui. C'est une condition sur la différence. Donc pour la case de conjugaison, il y a un polygone de Newton. Pour la classe de conjugaison, c'est le polygone de Newton de classe de conjugaison, de polygone caractéristique. Et celui-là, il doit être plus petit que lambda. Et s'il est vraiment plus petit que lambda, donc là, ça commence à avoir des phénomènes bizarres, enfin, tous ces composants. Quand c'est très proche de lambda, ce nombre de composantes, dans beaucoup de cas, s'exprime comme le poids du polygone de Newton dans le irréductible de lambda, de la groupe dual. Donc, ce qui est quand même assez remarquable dans ce cas. Mais je vais expliquer ce théorème la semaine prochaine. Essayer de mettre en place un peu les histoires du quotient régulier ici. Donc, pour définir ces fibres de Springer multiplicatives dans le même cadre, il faut arrondir G. Donc ça, c'est d'introduire le semi-groupe de Wimber. Donc là, je commence par quand j'ai un groupe semi-simple et simplement connexe. Et on introduit un G+, qui est T fois G, donc T c'est le tore maximal de G, donc T fois G divisé par le centre qui agit de façon antidiagonale. Donc là on a oméga 1, oméga R, donc qui est dans les poids dominants les poids fondamentaux. Et alpha 1, alpha R dans des racines simples. Donc on arrive à l'étendre à G+. Donc ça, tout ça, c'est de G. En faisant les formules souvent, donc on a donc rho I qui va de G dans Gn de Vi. Et donc on a rho I plus de T fois G. Et ça, on va dans la même chose en faisant rho I plus de T de G. On multiplie, on fait oméga I fois rho I G. Donc l'idée, c'est en fait de multiplier la matrice des mineurs d'ordre I par un scalaire pour le rendre entier. Et donc on a aussi donc alpha I plus de TG, et simplement alpha I de T. De sorte, on a maintenant le alpha plus et rho plus. Ça nous fait un homomorphisme de T de G plus. On voit bien que tout ce qu'on fait, le centre s'envoie trivialement. Parce qu'ici, ça s'annule. Et le centre est aussi annulé par les racines. Donc là, ça fait un produit de Gm à la puissance R fois produit de I à 1 à R de Gln de Vi. Donc ça, c'est les représentations fondamentales plus des scalaires. Et donc, on définit, donc en caractéristique 0 au moins, en caractéristique 0, on définit V de G comme l'adhérence de G+. Donc là, c'est une immersion fermée. Maintenant, on prend l'adhérence dans AR, soit et on a aussi V0 de G, qui est l'adhérence de G+, dans la même chose, mais et ici, dans les endomorphismes, on va enlever 0. Donc après, oui, ça paraît un peu étrange, mais il y a deux choses à remarquer. C'est une chose qu'on peut... on va reprendre la course dans l'autre sens. Si on prend le G adjointe, barre, la compartification magnifique de G adjoint. Donc pour tout le repas adjoint, il y a une somme magnifique. Alors ces compartifications, un groupe de Picard peut déterminer. Du coup, on a un torseur universel. Donc, en fait, V0 de G est un morphisme vers G de hat, qui est le torseur universel sous le groupe T. Donc, c'est le T-torseur universel sur G à part. Donc, ça, c'est une autre façon de définir le V0 de G en prenant le torseur universel. Par l'anneau de Cox de G at bar et VG devient la courture affine de ce machin. Donc ça, c'est une autre façon de faire. Et donc aussi, pourquoi on a besoin de cette construction? C'est parce que en utilisant ça, on peut lire la découpe de Cartan. Dans le cas GNLN, disons qu'une matrice soit dans une telle double classe, ça veut dire que quand vous l'envoyez la matrice, vous envoyez la matrice dans les endomorphismes des mineurs, la PGCD des entrées des mineurs soit donnée. Et c'est la même chose que multiplier par une constante donnée, ça devient entière. Donc, donc cette construction est exactement façonnée de façon qu'on puisse lire cette carte en général. Donc ça, les deux choses sont ensemble. Voilà. Donc on a bien sûr la théorie des invariants sur ce produit de Weinberg. On a VG, on a l'axiome de G à gauche et à droite. Si on divise par G fois G, eh bien on va trouver le A à puissance R. Donc on retrouve que ces parties-là. Donc l'axiome sur G ne dérange pas les racines sur le tore. Et puis si on divisé par l'axiome adjoint de G, eh bien d'abord on associe, et puis on a un autre à R. Donc ici c'est les traces de O plus de Tg. Ou I plus de Tg. Donc le quotient invariant, c'est ça. Et maintenant, on va chercher de comprendre c'est quoi les orbites régulières. Donc la partie régulière de VG avec AG. Donc là, bien sûr, la FIP, la but difficile, c'est la FIP, au niveau, c'est la FIP 0. Donc N, c'est le, disons, ça c'est morphisme, disons que c'est qui plus, c'est qui plus moins 1 de 0. Quelle est la fibre 0? Eh bien, il se trouve qu'on peut décrire, il y a encore des descriptions combinatoires compliquées, mais en tout cas, la partie régulière est comme la N règle dans la proposition ici. Donc là, d'abord la définition. C'est donc W, c'est le groupe de Weyl. G. Et S, c'est l'ensemble des racines simples par rapport au choix d'une chambre de Weyl. Et on a un élément S cosetteur. Cosetteur, c'est un produit de SI, SA, S2, SR, où ici I dans SI est une bijection de l'ensemble 1 à I à R sur l'ensemble de racines simples. Donc delta ou S. Donc si on choisit un autre entre les racines simples, on pourrait faire le produit. Donc ça fait un produit. Donc ça, c'est un ensemble cosetteur par rapport au choix d'une chambre. Et il se trouve que deux choses. La première chose, ils sont tous conjugués. Donc c'est ces éléments S cosetteur sont conjugués. Mais ça ne fait pas toute la place de conjugaison. Il y a d'autres éléments cosetteurs qui ne sont pas S. Donc, le morphisme de ce morphisme entre les bijections et les éléments cosetteurs peut ne pas être injectif. Donc, sont conjugués, mais on a l'ensemble de S cosetteurs est strictement plus petit ensemble de cosetteurs. Donc, ici, c'est tous les éléments. C'est la classe de conjugaison des éléments de cosetteur. Donc là, c'est l'élément S cosetteur qui est défini comme dessus. Donc ça, c'est différent. Et ici, cet ensemble est le cardinal de l'ensemble du groupe de W divisé par stabilisateur du mot cosetteur. Alors ici, c'est le nombre de points, ici c'est 2 puissance R. Où R, c'est le nombre de racines, si G est simple. Donc c'est deux ensembles qui sont différents, donc faut pas s'embrouiller. En tout cas, on a une bijection. Entre les composants connexes, il y a un nombre fini d'orbites régulières entre l'ensemble des orbites régulières dans N et l'ensemble des S cosetteurs. Donc tous les éléments qui peuvent s'exprimer comme un produit des réflexions simples dans un certain ordre. Et c'est ensemble à 2 puissance R éléments. Voilà. Et en fait, et ça, c'est, c'est relié au résultat de Boutier sur les sections de Steinberg étendues. Alors, en fait, ça commence à Steinberg, donc quand G est simplement connexe, on a ce morphisme de G vertice sur W, et Steinberg définit une section epsilon, comment j'appelle ça, W. Bon, il y a des choix, mais ça dépend de ce W. À chaque fois qu'on a un élément cossétaire, Steinberg construit cette section. Et ça, c'est Steinberg. Et Boutier m'a montré que ça s'étend, cela s'étend à la section de Steinberg. S'étend au monolithe de Weinberg. Et ce qui est vraiment joli, c'est qu'en fait, vous voyez, à l'intérieur de G, ces sections sont conjuguées, mais quand on va au bord, elles ne sont plus du tout conjuguées. Quand on va à la fine potence, ça devient des orbites régulières différentes. Donc, en fait, c'est ça, les sections de Steinberg, ça fait qu'on a le V de G régulier divisé par G vers ce VG. C'est une réunion. Donc il a une section de Steinberg, ça donne ce machin est une réunion d'ouverts affines qui sont tous isomorphes au quotient invariant. Donc c'est la même chose, mais qui sont reliés un peu différents, qui sont identifiés dans les yeux différents. Mais ils sont complètement différents, mais sur la fibre nipotente, ils sont tous complètement séparés. Il y a deux puissances de quelque chose. Et voilà. Et avec ça, on arrive à décrire complètement, comme dans le cas précédent, la partie régulière de la fibre Hitchin multiplicative. Mais néanmoins, il n'y a pas de densité quand on est le cas additif. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est que je répète, c'est qu'en fait, même si ce n'est pas dense, ça donne un contrôle sur la dimension plutôt des autres fibres. Voilà. Merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.